Jeff.
Salut. Québec, capitale de quoi au juste? Puis tu me rejoins beaucoup avec ton texte et puis je vais te laisser l'expliquer parce que moi, je suis né à Québec, je suis né dans la capitale nationale et je trouve que dans les 4 dernières années, la CAQ a délaissé sur plusieurs points la capitale nationale et notamment dans son rôle même d'être la capitale nationale du Québec.
Ben, je vais déballer un peu le texte. Grosso modo, c'est que c'est un constat. Donc, il y a eu la loi qui est adoptée en 2016, à l'époque, dans le temps de Régis Labeaume. Ça consistait pour l'essentiel à un fonds économique régional de 25 millions, consacré Québec comme résidence du PM lorsque des rencontres diplomatiques on les fait à Québec. Il y avait aussi des notions de l'UNESCO là-dedans qu'on enchâssait dans la loi. Mais, tu sais, c'est un bon début, cette loi-là, mais force est de constater quand même qu'elle n'a pas toujours été bien observée.
Non, c'est ça. Et là, du côté du gouvernement, tu nommes plusieurs exemples frappants. On délaisse Québec au profit de Montréal. Et là, tu nommes Santé Québec, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, des organismes publics qui pourraient s'installer ici à Québec, aux côtés de nos décideurs, mais qui se retrouvent dans la grande métropole.
Je vais juste rectifier une petite affaire, par exemple. C'est pas qu'ils n'ont pas de siège à Québec. C'est que la vaste majorité de l'épicentre décisionnel se trouve à Montréal. On ne se contente pas d'histoire là-dessus. Oui, par exemple, la Caisse de dépôt a une place au l'édifice Price à Québec. C'est vraiment humble par rapport à l'imposante délégation qui se trouve à Montréal avec les salaires, les VP, la grosse patente. Puis j'ai rien contre Montréal, en fait, mais moi, ce que j'aimerais juste te mettre en exergue, c'est de te dire, il y a tous ces phénomènes-là qu'on voit, mais il y a aussi Québec qui se développe comme ville, comme économie. Puis si en 2036, on doit atteindre pour Québec RMR le million d'habitants, on va devenir une métropole. C'est que les gens doivent le comprendre. Là. On va y arriver. Et ça veut dire que si on avait en plus de ça tout l'appenage de ces centres décisionnels qui reviendraient à Québec, bien là, on ira encore beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. C'est ça un petit peu la vision.
Est-ce que tu crois que, parce qu'on est dans une année électorale, et je sais que vous voulez mettre de la pression, justement. Bruno Marchand en parle déjà depuis plusieurs années. Vous voulez mettre de la pression avec des universitaires, des institutions, des chefs d'entreprise. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des partis politiques qui vont porter une oreille attentive?
Ben, c'est qu'il faut arriver avec un shortlist à un moment à la fin. T'sais, on met à peu près 4 à 5 objectifs. Il ne faut pas noyer le poisson non plus puis s'assurer qu'un coup qu'on a fait le consensus auprès des leaders de la région, qu'on se dise, ben écoute, voici la liste d'épicerie pour Québec. Voici ce qu'on voit, nous autres, puis est-ce que vous vous commettez sur la base de ça? Mais je pense que normalement, c'est juste que Québec doit mieux s'organiser, doit être mieux en synergie. On l'est déjà beaucoup plus qu'avant, mais on peut aller encore plus loin. Et ça sera un résultat de ça.
Qu'est-ce qui sera des grands enjeux pour Québec en 2026? Parce qu'on sait, au niveau de l'immigration et tout ça, bien, la pénurie de main-d'œuvre existe. Ouais. Les gens qui arrivent ici, les immigrants, ont énormément aidé. Puis là, ça crie fort chez nos entrepreneurs.
C'est majeur.
Il y a eu, pas vraiment de colmatage à la dite fuite. Là. On dit qu'on est là-dedans, mais il y en a déjà qui ont perdu beaucoup de main-d'œuvre.
Ah, bien, ça l'enfer. Puis ici, on demande juste la clause grand-père qui n'appartient qu'à Québec, puis il n'y a pas de décision encore de prise là-dessus.
Qu'à Québec. On vient d'avoir le ministre Roberge en entrevue.
Et on
nous disait du côté du ministre Roberge que bon, c'est le fédéral qui va trop vite.
Je vous arrête tout de suite. Non, on va arrêter la joke, là, c'est correct. Là. C'est que la game, c'est toujours de se lancer à balle de ping-pong. Ça fait l'affaire du fédéral, ça fait l'affaire de la province. Mais là, strictement sur la clause grand-père, des TET présents sur le territoire, c'est l'apanage du gouvernement du Québec. C'est le ministre Roberge qui va décider ou non s'il le garde, s'il les garde sur le territoire.
Alors, on a bien fait de le challenger puis de demander est-ce qu'on peut travailler en collaboration, est-ce qu'on peut prendre nos responsabilités.
Bien sûr.
Assurément que de son côté, on disait qu'on fait tout, vous n'avez pas la même version.
Bien, c'est parce que s'il ne décide pas sur la clause grand-père, c'est des familles brisées, c'est l'image de marque du Québec à l'international qui est carrément scrappée. Pensez-vous que quand Québec aura encore besoin de nouveaux employés dans 5 ans qui vont lever la main ou 2 ans, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Hey, attends un petit peu là. Moi, j'ai gaspillé 5 à 10 000 de m'installer au Québec, j'ai apporté mes enfants. Tu m'as déraciné alors que je prenais mes racines au Québec. Je reviens pas chez toi. Ça m'intéresse plus.
Ben, c'est normal,
tes promesses sont vides.
On a des gens stressés, puis on a même reçu quelqu'un qui est issu de l'immigration de ce pays. Il dit hey, « moi, j'ai des pensées suicidaires. » Parce que ça devient tellement complexe et tellement difficile que ça a été dans mon... Puis en passant, si vous avez besoin d'aide, on peut nous écrire.
Et un 866 appel, on le rappelle.
Exactement, mais tu sais, c'est toute la détresse qui est démontrée dans ce contexte-là, vous dites que c'est catastrophique.
On les a trahis. On les a carrément trahis. On a fait des publicités mensongères à l'international. On les a fait venir ici. On dépensait en fou. Hey, faire venir des enfants, là, c'est stressant pour des enfants, là, découvrir un nouveau territoire. On a un climat qui est assez spécial. La langue, puis rajoute-en. Bref, moi, je trouve que c'est un scandale. Je vais t'avouer, il faut vraiment, au minimum, là, si le gouvernement là, doit agir, il doit absolument agir sur la clause grand-père là, at large, parce que dans la région, on a toujours 10 000 postes vacants dans la région. On a besoin de 13 000 nouveaux employés par année. Ça le fera pas. Parce que devinez ce qui va se passer. Là. C'est une croissance inflationniste. Avec le nombre de grands projets qu'on a au Québec, Hydro-Québec, le tramway, le troisième lien, comment tu penses que ça va se payer, toi, avec un bassin de main-d'œuvre qui se rétrécit? Les salaires vont à la hausse. Mais là, les gens vont dire, bien, c'est super, les salaires vont à la hausse. Non, c'est parce que là, on va avoir une croissance inflationniste qui va faire que tu vas gagner plus cher, mais tu vas pouvoir te permettre encore moins de choses parce que ton pouvoir d'achat va être réduit. Fait que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Là. On a besoin d'immigration. On a besoin de travailleurs qui viennent d'étrangers. On est en déclin démographique.
Il y a 13 000 personnes ici dans la région de Québec qui attendent présentement justement pour avoir leur permis. Le ministre Roberge nous disait qu'il faut que le gouvernement du Canada leur donne encore le statut temporaire pendant 18 à 24 mois, le temps qu'on fasse le tour des dossiers. Aussi, puis qu'on donne nos réponses. C'est beaucoup trop long.
Non, moi, je vous le dis, là, donner la clause... puis c'est dû, là, tous les spécialistes le disent, que Québec donne la clause grand-père. Par la suite, au moins, on va conserver sur le territoire ces gens-là qui ont choisi le Québec. Hey, s'il vous plaît, là, ils parlent français, ils travaillent ici, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs régions au Québec. Je veux dire, Appalaches, le taux de chômage est à 3 %. Écoutez, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que je pense qu'il doit y avoir une... Puis là, c'est que ça tarde. On écœure le monde.
Oui, parce que là, il y a des gens, solide, là, y a des gens, c'est début janvier là, qu'il faut qu'ils quittent. Là, donc,
C'est catastrophique. Ah non, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise rapidement. Puis, ils n'ont pas de gain là-dedans. Je vois aucun gain, moi, d'aucune façon, tant d'un point de vue électoral que ça, à ne pas les garder ici. On en a besoin pour le long terme. Il faut penser à l'économie du Québec.
Qu'est-ce qui explique ça, d'abord? Parce que nous autres, on se coltaille. On a eu le premier ministre François Legault la semaine passée. On vient d'avoir M. Roberge. On essaie de parler au fédéral. On parle à tous ceux qui sont impliqué là-dedans. On vous parle aujourd'hui.
Hey, je vais te dire une chose que je me suis rendu compte. Là, je vais vous avouer, je vais ouvrir mon kimono. Là. Je fais des publications souvent, moi, sur LinkedIn, puis les Facebook, tout ça. Mm-hmm. Ça pend quand même pas pire, mais là, quand j'ai fait mes publications sur l'immigration puis sur nos positions, hey, j'étais quasiment rendu à 3000 réactions sur une publication. Je veux jamais ça de ma vie.
Mais c'est le talk of the town en entrepreneuriat en ce moment, là, en affaires. Là.
Ben, c'est que c'est un sujet extrêmement chaud qui fait que les politiciens, souvent, en fait, ils jouent avec des allumettes. Ils sont avec des allumettes sur le bord d'une canisse d'essence.
Pourquoi ils se permettent ça, surtout avec la CAQ qui ne demande qu'à être élu, mais ça va pas très bien dans les sondages depuis des mois?
Ben, il y a une tendance. On regarde en Europe toute la question de l'immigration, l'identité. Il y a une partie de la population qui ne voit pas ça. Moi, je l'ai vu dans les réactions que je te parle, là, des réactions extrêmement viscérales contre l'immigration qui n'est pas fondée d'aucune façon. Il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Les gens viennent pas du tout voler quoi que ce soit. Ils viennent nous enrichir collectivement. Mm-hmm. C'est pas vrai non plus qu'ils réduisent au niveau du logement ici. Le taux d'inoccupation a passé en passant de 0,9 à 2,6. C'est quand même pas si pire. Hein?
Est-ce qu'il y a des entreprises, puisque vous êtes à la tête de la Chambre de commerce, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont fermer en 2026, vu ce qui se passe en ce moment?
C'est certain. Des restaurants, dans le manufacturier, il y en a qui ça va fermer également. Dans la région, on a une chance, par exemple. C'est qu'on a quand même une position régionale où il y a de la migration interrégionale qui aide un peu, mais ça ne vient pas résorber tous les postes vacants qu'on a. On a toujours 10 000 postes vacants. Ça ne se comblera pas du jour au lendemain, cette histoire-là.
Qu'est-ce qu'on doit travailler en matière économique si je te demandais deux priorités en 2026? Puis là, tu as la chance souvent de parler avec Bruno Marchand, voir des élections provinciales. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut travailler dans la capitale nationale pour justement augmenter notre croissance économique?
Ben, ça tombe bien parce que je tiens à saluer Bruno là-dessus. Il m'a invité tout de suite après qu'il ait été élu. Il a voulu consulter la Chambre de commerce à savoir où est-ce qu'on devait s'orienter comme ville au niveau économique. Puis moi, ce que je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, deux affaires viscéralement importantes. Le reprenariat. Il va y avoir près de 5000 transferts d'entreprises au cours des 4 prochaines années ici. Ça fait des milliards en capitaux qui transfèrent d'un main à d'autres. Il faut s'assurer qu'on les accompagne correctement, que ce soit par le mentorat, par des fonds d'investissement. Il faut vraiment déployer...
L'aide fiscale au sud de la province.
Ben oui, c'est sûr. Puis là, je vais t'avouer que la taxation non résidentielle de 0,4, était bienvenue en passant.
Oui.
C'était super, très bon signal. Deuxième priorité vraiment, vraiment importante pour nous comme région, c'est la productivité. C'est vraiment... Puis là, tu vas trouver que c'est très conceptuel, là, mais ça, l'est vraiment, ça a des conséquences marquées dans les poches des gens. On s'appauvrit collectivement parce qu'on produit beaucoup moins efficacement qu'aux États-Unis puis qu'en Europe. Et ça, ça a un coût pour tous les citoyens du Québec.
Concrètement, ça ressemble à quoi, à votre dernier point?
La productivité. OK, je t'explique. Donc, ça fait 20 ans qu'on dort sa Switch à vendre sur un marché américain qui fait que tu as une devise qui est faible puis tu as un marché qui est proche. Donc, tu n'as aucun incitatif
à traverser.
Digitaliser, automatiser, IATiser. Tu n'as pas ça. Tu ne l'as pas parce que tu as un marché qui est captif. Alors, avec la question des tarifs, ce qu'on a, c'est un choc électrique, là, parce qu'on se rend compte que si, par exemple, tu veux que ton produit en Europe, il faut que tu absorbes ton coût de transport. Ce qui veut dire que il n'y aura pas de magie dans les chiffres. Si tu n'accrois pas ta productivité pour dégager un surplus, tu ne payeras pas le coût de transport pour aller sur le continent européen. Puis il y a tellement d'autres exemples comme ça qui fait
Donc, toute la diversification de l'économie passe par l'augmentation de la productivité.
Ah, ben, c'est clair. Puis conquête de nouveaux marchés, consolidation de tes positions actuelles. La productivité, en passant, ça fait au moins 10 ans à 15 ans que ça, c'est flat au Canada. C'est un gros problème, alors qu'aux États-Unis, ils sont très, très, très hauts. Puis ce que ça fait, ça a un impact sur les salaires, ça a un impact sur la richesse collective. On est, les familles québécoises, 12 000 $ plus pauvres que la moyenne de l'OCDE. Ça parle-tu, ça?
Ben oui, ça parle. Ben, c'est ça. Je termine l'entrevue avec ceci, Frédéric Boisvert. Est-ce qu'on est dans le bon filon aussi quand on veut justement promouvoir et développer l'économie du savoir ici à Québec?
Répète-moi ça, ce que si.
L'économie du savoir, c'est-à-dire recherches. Est-ce que c'est un bon filon? Je sais que le maire en parle.
C'est un excellent filon. Je veux dire, ici à Québec, on a beaucoup d'entreprises dans le TI, là, les VUBAN, les KVO. J'ai vu qu'il y avait un contrat avec le fédéral, puis la question de l'insertion de l'IA dans la fonction publique fédérale. On a plusieurs joueurs, NextApp, que j'ai visité dernièrement, c'est vraiment eux autres qui font des cas d'IATisation des entreprises à moins de 5 000 $ bâtissent sur le ROI en 3 mois. C'est capoté.
Ils investissent par eux-mêmes, par exemple. Ils vont de l'avant, puis
exactement.
Attendent après.
C'est sûr que donne-leur un contexte fiscal amélioré. La super déduction fédérale qui a eu lieu avec le dernier budget, c'est inespéré pour eux, là, parce que ça veut dire plusieurs investissements à venir dans plusieurs compagnies au Québec puis au Canada. Puis ça, je tiens à saluer, c'est le gouvernement fédéral qui l'a fait durant le dernier budget.
Excellent. Pour la campagne électorale de 2026 au provincial, Pascal, on va regarder ça. Qui va alléger fiscalement davantage les entreprises? Bon, on va voter pour cette partie-là parce que c'est ce que ça prend pour les
citoyens,
entreprises.
Puis les citoyens.
Ouais, c'est ça, les citoyens aussi, en effet. Ah, on est-tu taxé? Imposé. Voyons donc. C'est même ça marche, je pense.
Légèrement.
Légèrement.
Mais c'est correct, Jeff. Faut juste donner un chèque de 500 $
C'est là que j'allais dire. C'est parce qu'on a tellement misé sur le citoyen pour la réélection qu'on a oublié ces grandes industries-là.
Ouais.
On a oublié les aînés qu'on demande à retourner sur
très
le marché
point.
Du travail. Puis qu'on aide. Côté fiscal, c'est même pas gagnant.
Très bon.
On oublie tellement de choses.
Aidez-moi, je vais être obligé de travailler à 65 ans. Aidez-moi tout de suite.
C'est de la petite politique.
Et voilà, t'as entièrement raison. Frédéric Boisvert, toujours. Des conversations intéressantes. Je te souhaite un excellent temps des fêtes.
Merci.
Et on se reparle prochainement parce que je pense que le dossier de l'immigration va faire encore
jour
en
janvier.
C'est pas terminé. Good, on va s'en reparler. Je sens une belle émotion chez toi positive pour débattre de ce dossier-là.
Absolument.
Puis c'est important, on l'a vraiment pris en main à Boulevard 102.1. Là, moi et Pascal avec l'émission On en jase. Et là, le matin, là, on fait énormément d'entrevues sur l'immigration parce qu'on veut que ces gens-là qui ont choisi le Québec, qui se sont installés au Québec, qui nous aiment puis qu'on aime, ben reste ici à Québec.
C'est un très beau leadership, alors je sais pas, félicitations.
Cool, merci beaucoup Frédéric. Après la pause, on parle avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On va revenir entre autres sur des grands événements de 2025 et on va également parler de financement du REM à Montréal, Pascal, parce que il y a un excellent article de Michel Girard dans le Journal de Québec qui est sorti cette fin de semaine et qui mentionnait que financement par la Caisse de dépôt, et boboy, ça coûte cher au gouvernement.
L'actualité n'est pas en reste.
Non, exactement.
Puis ça, c'est un point dont on parle rarement. Fait que je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a eu de la place en fin de semaine, mais c'est extrêmement pertinent.
Oui, et pourquoi on va en parler? C'est parce que si le fédéral ne met pas son 40 % dans le tramway, ça va être la Caisse de dépôt.
Mais oui.
Mais la Caisse de dépôt à Montréal en a mis pas mal, puis ça coûte vraiment, vraiment cher au gouvernement du Québec. 9,6 milliards de dollars. Alors, c'est pour ça qu'on va parler avec Nicolas Gagnon immédiatement après cette courte pause. L'actualité ne prend pas congé.
L'actualité ne prend pas de congé.
Boulevard 102.1.
L'application Boulevard 102.1.